Des poches sous les yeux, la chronique littéraire d'un livre de poche sur Radio Béton.
Bonjour, bienvenue dans Des poches sous les yeux, j'allais dire des hauts débats, non, bienvenue dans Des poches sous les yeux en direct de la Bourse au Disque comme tous les ans, depuis 10 ans, ou presque. Non.
Tous les ans, mais avec une surprise cette année, puisqu'on ne va pas parler de livres, exceptionnellement.
Mais si, on va parler de livres quand même, tu ne vas pas parler de musique.
Si, de musique, mais tu as raison, tout ça c'est basé sur un livre en 2 tomes qui s'appelle...
qui s'appelle 33 révolutions par minute, c'est malin comme titre.
Bah oui,
33 tours, ça 33 révolutions par minute. Donc Dorian Lynskey, que je ne connais pas, mais toi tu le connais, Odile.
Tout ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui est hyper bien documenté sur les protest songs, les chansons à texte, engagées. Et donc, on a décidé pendant cette heure de vous parler de quelques chansons qui sont étudiées dans ces 2 tomes. Et voilà, on espère vous faire plaisir.
Et donc, les chroniqueurs de Dépêche sous les yeux ne sont pas seulement des intellos qui lisent dans leur chambre, c'est aussi des gens qui protestent. Et qui,
protester, c'est pas un télo, donc.
Non, je ne sais pas.
Non.
On le saura peut-être à la fin de.
Nous, on fredonne, on ne proteste pas.
C'est ça.
Et donc, notre ami, parce que c'est notre ami pendant une heure, notre ami Dorian Lynskey a pondu 2 tomes, 2 gros tomes, dans lesquels il chronique 33 chansons. Et bien sûr, il ne parle pas que des chansons, parce que sinon, ça serait très chiant très rapidement. Il prend le prétexte de ces chansons pour parler de l'époque. Et l'époque chroniquée par Dorian Lynskey, c'est 1944-1988. Il explique qu'il commence par 1944 parce que c'est le moment où les protestants rencontrent le peuple. Là, ouais.
Oui, on peut dire ça comme ça. Enfin, un peu avant quand même. Mais c'est la première chanson emblématique dont on va parler après.
Et alors, juste pour préciser, il ne parle quasiment que de chansons anglaises. C'est comme s'il n'y avait pas eu de protestants en France, par exemple, ou ailleurs, anglaises et américaines, anglo-saxonnes, on va dire.
Mais par il exemple, parle de ce qu'il connaît. Et en fait, il parle de la chanson jusqu'à 2002, je crois.
2008. Bon bref, bon. On débattra de ça à la fin de l'émission. C'est elle qui a raison, ça m'étonnerait.
Oui, c'est elle qui a raison.
En tout cas, ne vous attendez pas à entendre parler d'Henri Tachant, de Maxime Le Forestier, de
et
Francis
là,
Lalanne,
Florent Pagny,
tous,
nous
Florent Pagny,
pas
tous
Florent
ces
Pagny.
Gens qui pourtant ont fait beaucoup. Ouais, des gens qui ont fait beaucoup pour la protestation.
Mais on va bien trouver le Maxime Le Forestier anglais, moi je vous le promets.
Alors on va en parler.
J'en parlerai après.
En tout cas, il a raté la France où il y avait quand même un nid. Alors, on va commencer par le commencement, donc par 1944. On va commencer par 1944 avec Woody Guthrie, qui paraît-il est le grand-père de tous les protest singers.
Alors, c'est pas paraît-il, c'est le grand-père, la base, le socle, le commencement de la protest song. Alors, Woody Guthrie, je pense que tous les chanteurs dont on va parler ensuite l'ont évoqué ou ont fait référence à lui à un moment ou à un autre. Alors, effectivement, 1944, c'est l'année de sa chanson la plus célèbre. Alors, ça va être terrible cette émission s'il y a plein de trucs à dire en anglais et ça va être
fais comme si Odile n'était pas là.
Voilà, donc This Land is Your Land, qui a été reprise ensuite notamment par Bruce Springsteen. Et alors Woody Guthrie, qui est Woody Guthrie?
Oui,
hein,
j'allais vous le demander.
Qui est Woody Guthrie? Donc il est né en fait en 1912, donc 1944, hein, il a quand même déjà fait plein de choses avant. Alors c'est un personnage assez incroyable qui, en dehors du fait qu'il soit la base de la protest song, a une vie un peu romanesque, on va dire, avec des parents aliénés qui ont fini à l'hôpital ou en asile. Enfin bon, ça c'est, il avait une vie familiale très très particulière. Donc très jeune, il a été un peu laissé à l'abandon. Avec sa guitare, son harmonica, et donc
ça aide
pour rencontrer la musique. Et effectivement, à la base, une conscience politique qui n'était pas forcément très développée, mais qui petit à petit, parce qu'il a rencontré l'histoire avec un grand H, s'est développée. Alors cette histoire, c'est quoi
C'est 3 femmes et 8 enfants.
C'est après ça, les 3 femmes et les 8 enfants. Mais on pourra reparler du côté people de Woody Guthrie, si tu veux.
Donc l'histoire avec un grand H, c'est quoi alors?
Alors l'histoire avec un grand H, c'est que l'Amérique des années 30, comme vous le savez tous, c'est la période de la Grande Dépression. Et que du coup, Woody Guthrie, pendant la Grande Dépression, a une 20aine d'années. Et si sa conscience politique n'était pas très développée avant, il va être confronté de façon concrète à ce qui se passe dans le pays, avec notamment, alors attention, Odile encore va me regarder, la Great Dust Storm en avril 1935. Alors, c'est quoi la Great Dust Storm, si vous vous demandez tous?
Moi, je dirais que c'est un rapport avec la poussière.
Bien joué, bien joué. Et du coup, c'est les grandes tempêtes de poussière qui ont en fait envahi les États du Midwest pendant le mois d'avril,
non,
et qui en fait cumulé à la crise économique a fait des ravages énormes, parce que ça a détruit absolument toutes les plantations, toutes les fermes qui avaient déjà bien du mal à survivre. Donc du coup, les gens sont partis sur les routes pour essayer d'aller chercher du travail, notamment en Californie. Alors c'est ce que raconte Steinbeck dans Les raisins de la colère. Ou alors voilà, vous avez tous vu aussi les photos de Walker Evans.
Oui, bien sûr.
On les a
oui,
tous
mais
vus.
Guthrie a un rapport à la littérature, parce que effectivement.
Non, c'est pas une chronique agricole. Non.
Mais du coup, c'est vrai que Guthrie est très lié à la littérature. Alors Steinbeck notamment a préfacé son recueil de chansons. Et alors, à propos de This Land Is Your Land, du coup, Steinbeck disait « L'espèce de petit salaud, en 17 couplets, il a résumé toute l'histoire d'une œuvre qui m'a pris 2 ans à écrire. » Donc voilà, on voit vraiment une familiarité. Et c'est vrai que Guthrie, c'est un peu l'enfant de l'Amérique. Il plonge vraiment ses racines dans l'histoire du peuple américain, alors plutôt du côté, effectivement, des pauvres. Et quand on voit même, je sais pas si vous avez déjà vu des photos de lui, alors c'est vraiment l'archétype voilà, du peuple américain dans les années 30.
Francis Lalanne a essayé de lui ressembler, mais il n'y a pas
oui,
réussi.
Mais c'est la queue de cheval, les grandes bottes, ça n'allait pas. Donc voilà, il a découvert par cette crise économique et par donc ces faits-là, la crise politique que traversait le pays. Et du coup, du jour au lendemain, il a pris sa guitare. Il est parti, alors voilà, on parlera des trois femmes et 8 enfants après. Il est parti sur la route et ça fait effectivement aussi partie de la légende un peu Woody Guthrie qui voyageait dans des wagons de train avec sa guitare sur laquelle était inscrite « This machine kills fascists », qui est une phrase qui est devenue très célèbre par la suite. Et du coup, c'était vraiment un voyageur, un peu à la Kerouac, on parlait de littérature tout à l'heure, mais qui allait à la découverte du pays, qui allait apporter ses chansons aux gens comme ça.
Bien, on va. T'as fini les
non, pas tout à fait, parce que du coup, cette chanson, This Land Is Your Land.
On va écouter la chanson, mais non.
Qui a été alors composée en 1940, du coup, et après, alors il a été rattrapé par la guerre, parce que c'était l'époque de la Seconde Guerre mondiale, donc il s'est engagé dans la marine marchande. Et à son retour en 1944, lors d'une permission, il a ressorti cette chanson qui avait été écrite et qu'il avait mis au fond de ses tiroirs et qui est du coup vraiment devenue une espèce d'hymne américain à la place presque de God Bless America, dont il s'est inspiré d'ailleurs. Enfin, c'est un peu une réponse à God Bless America. Et l'idée, c'est de dire, le peuple, le territoire américain ne nous vient pas de Dieu, etc. Il est à nous, à nous tous. Et du coup, à nous de le faire vivre dans des conditions dignes.
Et il est devenu richissime avec cette chanson ?
Pas du tout, il n'est pas devenu richissime. Alors en plus, 1944, c'est l'année où la protest song, ça a commencé un peu à décliner, parce que quelques années après, il y a des choses plus légères qui sont arrivées. C'est vrai qu'après, c'est la seule chanson vraiment qui survit de ces années-là. Guthrie qui a été très très proche du parti communiste sans jamais s'encarter, enfin, c'est ce qui l'a sauvé en fait du McCarthyisme après, puisqu'il n'a jamais pris sa carte au PC.
Alors qu'il a soutenu très très fort le parti communiste.
Et de façon même plus...
plus radicale.
Qu'il a soutenu, il a écrit une chanson sur Staline notamment qui est assez étrange.
Eh bien, on va écouter Woody Guthrie. This Land Is Your Land. Et on
soyez
revient
indulgents
tout de
pour l'enregistrement. Hein, ça date de Mélanie.
1944.
L'enregistrement original. Voilà. Bravo.
Donc, ça a 22 ans qu'on produit.
Woody Guthrie. This land is my land. From the California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. I went a walk in that ribbon of highway. I saw above me that endless skyway. Saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in
the wheat fields waving and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
Alors, this land is your land, vous pouvez la chanter
Non, c'est juste la piste de danse là.
En même temps, on s'endort un peu hein, sur.
Mais non.
Non, on s'endort un peu, je dis, sur Woody Guthrie. Non, et on va se réveiller parce que on passe au fils spirituel de Woody Guthrie. Et ben, c'est Bob Dylan.
Bob Dylan.
Et Bob Dylan, c'est The Protest Singer, non?
Eh oui, mais c'est pas si évident que ça parce que lui dit que non. Ouais. Mais on va en parler, voilà.
Parlons-en alors.
Alors en fait, Bob Dylan, de son vrai nom Robert Allen Zimmerman, il est né en 41. Je vais pas vous faire toute sa vie, etc. Mais on parlait de Guthrie, c'était un fervent admirateur. Et en fait, il se rend à New York dans les années 60 pour justement aller voir Guthrie malade à l'hôpital. Et il sympathise. Et Guthrie dira de lui, ce gosse a de la voix. Je ne sais pas s'il réussira par ses paroles, mais il sait chanter. Donc, du coup, Dylan, il traîne un peu à Greenwich Village, qui est un peu le lieu pour, pour la musique underground, le hype de New York à cette époque-là. Et il se fait repérer là-bas. C'est comme ça qu'il enregistre d'abord un premier album, dont je me souviens plus du nom, et le deuxième surtout, avec lequel il va connaître la consécration, avec notamment la chanson Blowing in the Wind.
Dès son deuxième album, il balance 63, cette chanson.
Ouais. La consécration, parce qu'on connaît tous. And my friend, blowing in the wind.
Et là, il devient riche immédiatement. Là,
je ne sais pas, j'ai pas été voir ses comptes
En tout cas, cette chanson est connue partout dans le monde. Ouais.
Et c'est sur ce deuxième album que se trouve Masters of War. Alors l'album, il est enregistré entre avril 62 et avril 63, pendant un an, parce qu'il n'était pas content en fait des premières prises. Donc il a fait aussi un petit séjour en Angleterre. Bah, il finit d'enregistrer en avril 63. Et bon, le séjour en Angleterre, c'est pas anecdotique parce que en fait le Masters of War c'est tiré d'une chanson populaire anglaise. Voilà, en tout cas au niveau de la mélodie.
Il parle de quoi dans Masters of War?
Alors Masters of War en fait c'est une chanson qui est dirigée contre le complexe militaro-industriel. Parce qu'en fait voilà, il a 22 ans, Bob Dylan, donc il faut se remettre le contexte, guerre froide, il y a la crise des missiles qui vient d'avoir lieu, bientôt il y aura la guerre du Vietnam, et à 22 ans, on est en colère. Donc Bob Dylan, quand on est un garçon, en gros, à 22 ans, qu'est-ce qu'on fait? Les filles, on joue de la guitare et on est en colère. Bob Dylan, c'est les trois en même temps.
Après, on arrête.
Et après, on est en colère contre les filles.
Ah, mais ça dépend de ce... on en reparlera. ça sera l'objet d'une autre émission.
Oui, exactement. Voilà.
Et en fait, Bob Dylan, c'est un peu tout ça. Et c'est suite à une lettre d'adieu de Eisenhower qui mettait en garde les Américains contre le complexe militaro-industriel que Bob Dylan a eu l'idée de cette chanson. Alors, on lui a souvent dit que c'était finalement une protest song, mais lui, il dit que c'est pas une protest song. Il dit que c'est juste, en fait, quelque chose que je devais dire à ce moment-là, qui devait être dit par quelqu'un, pour quelqu'un. Et il refuse toujours l'étiquette de protest singer. Il a toujours été un peu ambivalent comme ça. C'est pareil quand on... Et il a toujours, parce qu'il a été aussi le symbole du mouvement des droits civiques.
Ouais.
Et il a refusé cette étiquette. D'ailleurs, en 65, en Angleterre, au concert de Newport, quand il est à l'apogée de sa gloire au niveau chanteur folk, c'est là qu'il commence avec l'électricité, où il massacre toutes ses chansons, pour casser cette image qu'il aura refusée.
Cette image, finalement, lui vient de cet album-là.
Exactement. Et lui, il est un peu entre les deux, parce que forcément, il était attaché à tous ces gens. Ouais. Et très sensible à l'univers qui l'entourait, notamment en politique, etc. Mais et d'un autre côté, c'est quelque chose qu'il refuse aussi. Voilà. Donc il est entre. Je dirais que c'est un personnage clair-obscur. Hein. Voilà.
Bien, alors.
Donc, Master of War, quand même, écrit par un jeune homme de 22 ans. Et pour finir, avant de lancer la chanson, je dirais juste que à la fin de la chanson, il dit quand même j'espère que vous mourrez tous. Voilà, c'est cash. On n'est pas du tout dans
Il a raison d'ailleurs, on mourra tous.
Mais là, il s'adresse directement. Au complexe militaro, pour l'époque, c'est quand même très très fort.
Alors, est-ce qu'on a Master of War?
Oui, on l'a. Hit it, build the death planes. Hit it, build all the bombs. Hit it, hide behind the walls. Hit it, hide behind discs.
I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but built to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes.
Alors, c'est Dylan, tout le monde connaît Dylan avec sa façon de chanter assez bizarre, qui moi m'a toujours un peu énervé. Mais on passe au petit-fils spirituel de Woody, et c'est Billy Bragg. Et là,
Billy Bragg.
Là, ça va être électrique, là.
Ah ouais, ouais. Alors, ouais. Billy Bragg, c'est un petit Anglais. Il a quitté l'école très tôt, vers 16 ans, et puis il a fait des petits boulots, ne sachant que faire, il s'est inscrit dans l'armée. Puis là, à l'armée, au bout de 3 mois, là, il se rend compte que vraiment, entre patriotisme et nationalisme, la frontière est vraiment très fine. Et donc,
il se rend compte que la guerre, c'est mal.
Voilà, et donc c'est le début de sa conscience politique. Et donc, il sort de l'armée, il fait 2 albums et c'est 2 cartons. Alors, parce que ici, peut-être qu'on ne connaît pas tellement Billy Bragg, mais il est, je vous assure, très connu, il a un succès énorme. Et la chanson dont je vais vous parler, Between the Walls, a été chantée dans le monde entier, jusqu'à Berlin, jusqu'à Kiev.
Wow.
Et avec cette chanson-là, Billy Bragg est même allé au studio de la BBC. Il a fait Top of the Pops.
Non.
Si. Donc, c'est franchement pas mal. Alors.
Il a vu Odile en concert, non ?
Pardon ?
Il a vu en concert ?
Ah, bah, des millions de fois, oui. Ah. Parce qu'en fait, cette chanson, elle est sortie en 85 et j'habitais en Angleterre à cette époque-là. Donc, Billy Bragg, c'est ma Madeleine, c'est formidable.
Donc, ça ressemble bien à ça, au moins.
C'est qui prie.
Dans Between the Walls, il parle de quoi ? Ben, de la. Comme le titre l'indique, de la période entre les deux guerres. Donc, dans cette période-là, la classe ouvrière est malheureuse, elle souffre, elle a des problèmes d'argent, elle a peur de la dépression des années 20, elle a peur du réarmement des années 30, et puis elle aimerait bien un gouvernement, un welfare state, un gouvernement qui l'aide, qui soutienne les classes défavorisées, comme le dit la chanson, depuis le berceau jusqu'à leur tombe. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que cette chanson Between the Walls, en fait, elle fait écho, et un écho retentissant pour tous les Anglais qui vivaient en Angleterre dans les années 84, 85, 86, c'est que ce qu'il décrit appelle à un parallélisme absolu avec la situation, la crise sociale que vit l'Angleterre à ce moment-là. Parce que de 84 à 85, il y a une crise, une grève des mineurs en Angleterre qui a duré 1 an. Il faut imaginer ça, 1 an. La chef qui était à la tête de l'État, bien sûr, c'était la dame de fer, Margaret Thatcher, qui n'a rien laissé passer. Les mineurs se sont battus pendant 1 an pour rien. De toute façon, les mines ont été fermées à la suite de cette année de grève.
Et Billy Bragg, il se battait avec eux.
Et alors, Billy Bragg, là où il était formidable, c'est que cette chanson, en fait, c'est pour les mineurs. Parce que tout ce qu'il décrit de la période de l'entre-deux-guerres, malheureusement, elle est toujours réaliste pour la vie sociale des mineurs à ce moment-là. Et donc, ce qui est très fort, c'est qu'à aucun moment, il ne date sa chanson. À aucun moment, il n'attaque ou ne parle de Margaret Thatcher, ce qui fait que ça lui a évité la censure. Et c'est comme ça qu'il a pu se retrouver sur Top of the Pops. Autrement, ça aurait été impossible. Donc, lui, il est honnête, droit dans ses bottes. Vous allez l'écouter tout à l'heure. Vous allez voir que c'est l'anti-idole. Déjà, il est habillé comme vous et moi. Il chante comme vous et moi, malheureusement, ce qui veut dire qu'il chante pas toujours très juste.
Parle pour toi.
Oui, c'est vrai. Et puis surtout, il parle avec un accent de classe. Il a l'accent cockney, il fait des fautes d'anglais. C'est vraiment quelqu'un qui est proche du peuple, à tel point qu'il va manifester avec les mineurs sur les piquets de grève, à tel point que tous les bénéfices de cette chanson ont été reversés au comité de soutien des mineurs. C'est quand même mais une marque d'engagement.
Mais ton ami Billy, il fricote aussi quand même avec, avec la gauche officielle. Mais,
alors cette marque d'engagement fait qu'il a été à l'origine d'un collectif d'artistes qui s'appelle The Red Wedge. Et dans la période de 85 à 90, c'était vraiment le genre de manifestation qu'il fallait suivre parce qu'ils organisaient des festivals et des concerts absolument formidables. On retrouvait The Smiths, Lloyd Cole, Madness,
Paul Weller.
Tous alors, les autres, on les connaît en fait.
Son alter ego, c'était Paul Weller de The Style Council, anciennement The Jam. Et bon, à deux, ils ont vraiment fait beaucoup pour changer la politique en Angleterre, surtout auprès des jeunes. Hein. Leur but, c'était de donner une conscience politique aux jeunes, de les faire voter, parce que lors des élections précédentes, le Labour Party a été laminé, et parce que les jeunes ne votaient pas. Donc tous ces artistes n'étaient pas forcément pour le Labour Party. Hein. Leur ciment, vraiment, c'était leur haine envers Thatcher. Et donc, cette haine s'exprimait avec une collaboration étroite.
Ils s'engagent quand même très très fort auprès de Neil Kinnock.
Avec Neil Kinnock, qui à l'époque était le personnage préféré des Spitting Image. C'était l'espèce de Krasuki, moitié George Marché de l'époque en Angleterre. Personnage très très apprécié. Et ensemble, ils ont fait beaucoup de choses. Et puis, du coup, même des artistes qui n'avaient rien à voir avec la chanson ont aussi manifesté pour The Red Wedge. Il y avait un festival de comiques. Vraiment, ça a eu une importance énorme. Malheureusement,
ça se termine mal.
Ça se termine en 90 parce que de toute façon, les conservateurs ont été réélus 3 fois de suite et ça n'a pas servi à grand chose.
Et ça se termine mal aussi dans le sens où il n'est pas très content, ou certains de ses copains ne sont pas très contents de la façon dont ils sont engagés auprès du Labour.
C'est toujours pareil. Il y en a qui sont très très à gauche, d'autres pas un peu moins. Donc moi, il y avait un groupe que j'aimais beaucoup à l'époque qui s'appelait The Redskins. Bon, eux, ils étaient beaucoup beaucoup plus à gauche et ils trouvaient que Neil Kinnock avait finalement laissé tomber les mineurs. Donc bon, il y a eu des guéguerres internes, mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même cet élan incroyable que ça a suscité auprès des jeunes. Et maintenant, Billy Bragg n'est pas du tout rangé dans les bacs. Hein. Il continue une carrière internationale. L'année dernière, c'était donc international. L'année dernière, Mélanie en a peut-être parlé, je n'ai pas tout entendu. C'était les 100 ans de la naissance de Woody Guthrie.
Non, je n'en ai pas parlé, effectivement.
Et donc, Billy Bragg était invité sur toutes les chaînes américaines parce qu'il a fait un grand revival en 98 avec le chanteur folk américain Wilco, où il faisait des reprises de Woody Guthrie.
Bien, voilà. Et donc on va écouter
Between the
Walls,
pour
la première fois.
La chanson que tout le monde a entendue dans le monde entier. Donc, Between the Walls.
I was a miner, I was a docker, I was a railwayman between the wars. I raised a family in time of austerity with sweat at the foundry between the wars. I paid the union, and as times got harder, I looked to the government to help the working man. But they brought prosperity down at the armory. We're arming for peace, me boys, between the wars. I kept the faith and I kept voting, not for the iron fist but for the helping hand. Well, this is a land with a wall around it, and mine is a faith in my fellow man. This is a land of hope and glory. Mine is the green field and the factory floor. These are the skies all dark with bombers, and mine is the peace we know between the wars. Call up the craftsman, bring me the draftsman, build me a path from cradle to grave, and I'll give my consent to
to any government that does not deny a man a living wage. Go find the young men, never to fight again. Bring up the banners from the days gone by. Sweet moderation, heart of this nation, desert us not, we are between the wars.
Eh bien, retour dans Des Poches sous les yeux en direct de la Bourse au Disque, où on me fait remarquer finement que je n'ai pas présenté les chroniqueurs. Donc il y a Vincent, Odile, Jimmy, Charlie et Mélanie autour de moi. Billy Bragg, je sais pas pour vous, mais moi je connaissais pas.
Enfin, bon, on va en profiter, Odile n'est pas là, hein. Mais j'ai même jamais.
C'est un mec mondialement connu, mais qu'on ne connaît pas ici dans Des Poches sous les yeux. Alors cette émission a été préparée. La deuxième partie, parce que là on a vu qu'on faisait fils, petits-fils spirituels de Woody Guthrie. La deuxième partie s'appelle l'acmé. Alors l'année dernière, tu nous avais parlé d'antithétique, je me rappelle.
Bien, mais tu as retenu. Oui, bah, donc, tu vois, c'est bien.
Et donc l'acmé, c'est quoi l'acmé?
C'est le paroxysme.
Ah,
ça te va?
Donc on va aller au paroxysme de la protest song.
Ça va être une espèce de nirvana de la protest song.
D'accord. Donc on va se bouger un peu peut-être, parce que y compris Billy Bragg, j'ai trouvé que c'était un peu
lent. Ah, Odile revient. Non, c'était bien. C'était bien Billy Bragg.
Merci. Hein,
merci de cette découverte.
Alors,
moi j'ai amené un petit peu de guitare parce que je vais parler de War. Et il y a plusieurs versions de War qui sont toutes assez toniques, on va dire. Hein, ouais. Donc War, c'est sorti en 70. C'était sorti à la Motown, qui n'était pas spécialement un label qui faisait de la protest song. Berry Gordy, qui était le fondateur du label, n'avait aucune espèce d'attirance pour la protest song. Et il exhortait même ses artistes à avoir une position politique, raciale, en public. Pour lui, la Motown, c'était uniquement une usine à tubes. Et ce qu'il voulait, c'était sortir des tubes, faire du fric avec.
De la black music.
La black music, ouais. Donc, l'une des premières chansons protestataires, on va dire, c'est Blowing in the Wind de Stevie Wonder, qui n'est pas de Stevie Wonder, en fait, qui est de Dylan. Donc, je fais un rappel à l'intervention de Charlie. Donc, qui avait passé le filtrage de Gordy, le directeur du label, puisque c'était une reprise qui était déjà connue et qui avait aucune allusion raciale dans cette chanson-là. Donc ça passait, quoi. Mais en revanche, il y avait eu d'autres chansons protestataires qui n'avaient pas passé le barrage du bureau d'écoute. Voilà, donc War. War, c'est donc une chanson protestataire. Il faut savoir qu'à l'époque, il faut mettre un peu tout ça en contexte. Hein. Elle est sortie en 70. Dans les années 60, la Motown est au top de son activité. La Motown est basée à Détroit. Et à Détroit, en 67, il y a une émeute monumentale qui soulève toute la ville. L'armée est même obligée d'intervenir. Et donc tout ça marque les esprits, bien sûr.
Une émeute raciale. Hein.
Voilà. Même si les artistes de la Motown ne doivent pas faire part de leur position politique, leur avis en vue de la situation, ils ont forcément un avis personnel sur les événements.
Berry Gordy, à ce moment-là, il se dit je vais peut-être pouvoir faire de l'argent avec de la protest song.
Bah, pas vraiment, en fait. Parce que, alors, il y a tout un truc. Il avait toute une flottille de compositeurs avec lesquels il travaillait, dont un petit comité qui produisait à fond suite à des impayés, parce que forcément, lui, il voulait faire de l'argent. Donc, il rechignait à payer ses employés. Donc, suite à des impayés, les gros fournisseurs de chansons ont débrayé un peu, ce qui a laissé la place à d'autres, dont Whitfield. Whitfield, qui avait écrit des chansons qui, sans être protestataire vraiment, étaient dans l'air du temps. En fait, il était imprégné de tout ce qui se passait autour de lui, et ça transparaissait dans ses chansons, dont War. Et cette chanson-là, il l'a proposée aux Temptations au départ, qui en avait fait un pur produit de la Motown, un truc soul, ouais, pop, enfin voilà, quoi. Ça lui plaisait moyennement, et du coup, il a redonné ça dans les pattes d'Edwin Starr, qui en a fait ce qu'on connaît. Donc, une chanson qui ressemble plus à une charge d'artillerie qu'un titre soul, funk, voilà, quoi.
Et là, ça passe quand même, malgré le fait que ça va...
Là, ça passe parce que il sent bien qu'il faut faire quelque chose. Il y a quelques chansons qui sont passées et qui marchent bien dans les charts. Donc, voilà, quoi, l'attrait du gain. Et alors, si, il y a un truc qui est intéressant à savoir, c'est que le morceau d'Edwin Starr, C'était enregistré en une prise. Les musicos d'un côté, qui avaient une partoche à jouer, qui ont joué leur truc, sans connaître la chanson, sans connaître la partie chant, etc. Edwin Stark a enregistré son chant dessus. Et en une prise, ils ont fait le morceau tel qu'il est actuellement. C'est quand même hallucinant quand on voit le truc.
Et c'est un morceau qui a marché peut-être même plus que Billy Bragg, j'irais.
Ah bah oui, parce que ça... non, peut-être pas.
Je sais pas,
j'hésite. J'hésite. Enfin, bien sûr,
quand tu dis peut-être pas, t'as quand même un flingue sur la tente.
Oui, voilà, ouais, j'ai le comité de lecture à côté. Et ça a fait un fort carton, bien sûr, sur les GIs, parce que c'était à pleine époque de la guerre du Vietnam. Ouais. Et il y avait un fort contingent black dans l'armée américaine au Vietnam, quoi. Donc, ce qui a fait que c'est resté aux charts pendant un bon moment.
Alors c'est un peu pour ça qu'on appelle ça l'acmé, parce que finalement on est au top de la protestation, accepté finalement par les maisons de disques, la Motown l'accepte, et donc qui pousse des protestations pour faire de l'argent.
Pour faire de l'argent, oui, tout à fait, ouais.
C'est Odile.
Ah oui, ça n'a rien à voir avec les boutons d'acné des adolescents qui se rebellent acmé. Et qui protestent.
Mais
ah,
oui, mais ça, oui. Peut-être qu'il y a une racine latine commune, je ne sais pas.
Non, je ne crois pas, je vous dirai ça l'année prochaine.
Ok, donc on va, à moins que tu aies autre chose à rajouter, Jimmy.
Non, alors... Il y a plusieurs versions qui existent de War, hein, on en connaît tous plusieurs. Et là, je vous ai concocté un petit medley avec les trois que je préfère. Hein. Donc, il y a Frankie Goes to Hollywood, on commence par ça, qui va me permettre de rebondir sur ma prochaine intervention.
Bravo,
voilà,
bravo,
n'est-ce pas ouais. Et puis, une version de Springsteen.
Ah, et là, tu annonces la mienne, bravo.
Qui est velue aussi. Hein. Et pour finir, l'original de Twin Star.
Bravo.
Will, relax. I can't explain. I don't want to die.
Retour dans des poches sous les yeux en direct de la Bourse au Disque où on parle d'un double bouquin, 33 révolutions par minute, écrit par Dorian Linsky. qui passe en revue 33 chansons. On vient d'écouter enfin une protest song connue, War. Et on va passer.
Si vous n'avez pas de culture, c'est pas de ma faute. Hein. Il fallait un petit peu voir ce qui se passe ailleurs.
C'est aussi pour ça qu'on écoute des poches sous les yeux en direct de la Bretagne. C'est pour découvrir des chansons et des auteurs. Donc on va. Est-ce que Gil Scott Heron est aussi connu que Edwin Starr? Est-ce qu'il est aussi connu que...
Oui, il est très connu parce qu'il est reconnu. Enfin, il est pour certains, c'est un peu l'ancêtre du rap, ce qu'on appelle les spoken words. Il a un phrasé donc avec en mots, et puis il a aussi un petit fond funky, etc. Enfin, c'est surtout un poète et un musicien dans les années 70. Et la chanson dont je vais vous parler, Revolution Will Not Be Televised.
Televised.
Voilà, super. Bon, bah, tout le monde aura compris ce que ça veut dire. La révolution ne sera pas télévisée. Waouh. Beau titre d'ailleurs.
Oui.
Voilà. Elle apparaît pour la première fois sur l'album Small Talk. Un Lennox en 1970. Donc il y a d'abord une première version avec seulement des congas et une autre version avec un groupe, guitare, basse, batterie et flûte, une petite flûte voilà, qu'on écoutera après. Alors pour rebondir sur ce qui a été dit avant par rapport à la Motown, en fait il faut reconstituer un peu l'époque. On est en 70, il y a les Black Panthers qui essaient de s'étendre. Malcolm X a été tué en 1965. Et en fait, dans les milieux afro-américains, on est sûr que la révolution va vraiment arriver, d'une manière ou d'une autre. Mais bon, il y a un peu un paradoxe, parce que justement, la soul, la Motown n'a jamais été autant diffusée à la radio, mais ça reste quand même un peu sage et consensuel, ce qui va faire apparaître tout un groupe d'activistes, de militants, de poètes, dont notamment les Last Poets, qui eux diront carrément dans une de leurs chansons quand la révolution arrivera. Et c'est de ça dont va s'inspirer Gil Scott Heron, qui fait partie de ce mouvement. Et c'est un peu tous ces événements qui l'inspireront pour écrire la chanson. Notamment, comme disait Jimmy avant, les émeutes à Détroit en 67. Enfin, voilà, tous ces événements font qu'à un moment, on croit vraiment à l'avènement d'un nouveau monde et qui ne sera pas plus seulement dominé par les Blancs. Et
pour Jimmy, reprendre... ouais.
Oui, c'est aussi l'air du temps, parce qu'il y a aussi des chansons auxquelles on prêtait des intentions qui n'étaient pas les leurs au départ. Il y a la chanson d'Aretha Franklin, Respect, qui a fait un gros carton. Certaines oreilles entendaient des choses qui n'étaient pas forcément écrites dans le texte, mais qui pouvaient faire écho à certaines aspirations raciales, politiques, etc.
C'est surtout la façon dont elle l'a chantée, cette chanson, d'ailleurs.
Voilà, exactement, ouais.
Et donc c'est Last Poète au départ, c'est quand même des poètes, des romanciers, pas forcément des chanteurs. Hein.
Exactement. Voilà, il y a tout un groupe comme ça d'activistes noirs américains qui vont pour un peu s'éloigner de la musique qu'ils trouvent trop consensuelle, pour vraiment un peu parler finalement de la vie dans les rues, dans les ghettos, parce que bon, être noir américain dans les années 70, c'est il y a mieux quoi, au mieux être blanc. Et d'ailleurs dans le livre, si je retrouve le passage. Notre cher Inske, qu'est-ce qu'il raconte? Je vais vous retrouver ça tout de suite. Non, je vais pas le retrouver.
Enchaîne.
Voilà. Oui, voilà. Il dit que c'est un pot pourri hallucinatoire de la culture blanche. Donc ça, c'est en fait, il parle des paroles dans la chanson. On y croise entre autres Nixon, Agnew, Steve McQueen, Jack Ionasis et les Beverly Hillbillies. En fait, le langage de la publicité, des reportages est détourné avec une parfaite précision. Alors même si des chansons s'étaient déjà attaquées au pouvoir abrutissant de la télé en 1966, avec Frank Zappa, c'était la première fois qu'une chanson retournait le langage médiatique contre lui-même en transformant les banalités prémâchées en messages neufs et subversifs. Voilà. Donc c'est vraiment une attaque finalement contre le pouvoir blanc, contre la publicité, contre la télévision, et... qui est évidemment à dominante blanche à l'époque.
Tu disais au départ que Gil Scott Heron, c'est l'ancêtre du rap. Kanye West, aujourd'hui, utilise des morceaux de Gil Scott Heron.
Eh bah, bien, tu m'apprends quelque chose.
Bah, je te le dis.
Voilà, je ne savais pas. Mais quand on va écouter la chanson, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a vraiment... on sent vraiment l'influence, d'ailleurs. C'est vraiment assez génial. Je vais finir, avant de lancer la chanson, sur quelques paroles pour ceux qui comprennent pas ou mal l'anglais. Il dit quand même, on ne verra pas des flics buter nos frères au ralenti à la télé parce que la révolution sera live. Bon, ça aussi, c'est cash. Et le petit pic à la publicité, la révolution ne rendra pas ta bouche plus sexy. La révolution ne te fera pas paraître plus fine de 2 kilos. Voilà. Et moi, ça me fait beaucoup penser à un titre de Public Enemy qui s'appelle.
Ah non, je ne sais pas.
Je sais pas.
Moi non plus. Bon, voilà, mais tu vas chercher pendant, voilà, pendant qu'on écoute Discolteron, Revolution Will Not Be Televised.
Voilà. Ah, non, fuck, c'est pas the fuck the police. Fight the power.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Dame Nod, nous sommes de retour en direct de la Bourse au Disque pour ce spécial « Dépêche sous les yeux, 33 révolutions par minute », le bouquin de Dorian Lindsay. Et on continue avec alors là, un groupe où je pense que si on demandait au public là, si c'est un groupe protestant, tout le monde dirait non. Frankie Goes to Hollywood,
ouais.
Plutôt des tubes hyper dansants, et pourtant c'est de la protestante.
Oui et non en fait. En fait, ça c'est un titre, Two Tribes, c'est un titre qui était sur la face A du 45 tours et sur la face B il y avait War. Donc ça me fait. Voilà. Et donc on repasse dans les années 80. Il faut dire que Frankie Goes to Hollywood a surtout fait un carton par rapport à ses clips. Au départ, ils avaient des clips qui étaient un petit peu tendancieux avec Relax. Et donc ils ont surtout marqué les esprits par les clips qu'ils envoyaient sur la télé. Ils avaient même été censurés à la BBC, etc. Enfin voilà quoi.
Qui n'avait pas censuré Billy Bragg. Parce que Billy Bragg, elle est su contourner.
Ouais. Voilà. J'ai jamais vu de clip.
Ouais, mais un bon protest singer, il se fait censurer, sinon c'est pas un protest singer.
Mais moi, j'ai jamais vu de clip de Billy Bragg. Hein.
Ouais. Bon, moi non plus. Hein. Plug, forcément, c'est pas très. Voilà.
Voilà. Retour sur Frankie Goes to Hollywood. Voilà. Parlons sérieusement.
Donc, Frankie Goes to Hollywood. Dans Two Tribes, pareil, le clip est. Où on voit les présidents de l'époque. Reagan et Tchernenko qui se battent sur un ring, un match de catch, avec comme public tous les représentants de l'ONU. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 80, on est en pleine montée de la guerre froide, avec un tas d'événements. C'est le moment où Reagan lance le Strategic Defense Initiative, le SDI, rien à voir avec la boxe. C'était la guerre des étoiles, c'était les satellites qui permettaient de dégommer les missiles russes. Ouais. Et voilà quoi. Donc une espèce de montée en puissance de l'affrontement Est-Ouest. Il y a eu différents accrochages, il y a eu des manœuvres de l'OTAN qui ont failli déclencher une riposte soviétique pensant que c'était une vraie attaque. Il y a eu un avion de ligne coréen qui a été abattu par les Russes pensant que... Enfin voilà, il y a eu un tas de petits trucs comme ça où on n'a jamais été aussi près du clash, même en 62 avec... 61 62 avec les missiles de Cuba. Donc il y a une ambiance générale qui est un petit peu tendue au niveau mondial. L'Angleterre vient de changer tous ses missiles. Ils ont viré leurs missiles continentaux pour mettre des missiles à embarquer sur les sous-marins. Et un truc est sorti du ministère de l'Intérieur anglais. Ça s'appelle, il faut que je le retrouve, Protect and Survive. C'est sorti en 80. C'est un document qui est censé rassurer les gens en cas d'attaque nucléaire.
Comment se protéger en cas d'attaque nucléaire?
Voilà, en fait, ça, c'est un truc qui fout carrément les boules, quoi.
Et c'est pour ça, excuse-moi, mais je suis obligée de t'arrêter une fois de plus, parce que c'est pour ça aussi que le petit Billy Bragg, à 16 ans, il s'est engagé dans l'armée pendant 3 mois, parce qu'il y avait un contexte de guerre géopolitique. Non, mais il y avait vraiment cette menace de la guerre des étoiles, et ça terrorisait beaucoup de gens.
Odile, est-ce que tu as un poster de Billy Bragg aussi, dans ta chambre ou pas?
Excuse-moi, j'ai rien entendu.
Tu as un poster de Billy Bragg dans ta chambre ou pas?
Non.
Pour Noël, je retiens alors l'idée de...
Alors, essaye de donc, suivre quand même, malgré,
malgré
tes camarades.
Je suis perdu, voilà. Donc, enfin, voilà. Déploiement de ses forces va développer des manifs populaires. Il y a une manif qui déplace 60 000 personnes quand même contre les missiles américains. Et il faut savoir aussi qu'en 82, c'est aussi la guerre des Malouines. Hein. Voilà.
Là, donc, je ne dirai rien parce que je n'ai pas révisé. Donc,
voilà, c'est aussi la guerre des Malouines. Donc, tout ça donne un contexte un peu tendu, sachant que dans les débuts des années 80, la grande crainte, c'est quand même les réacteurs nucléaires, avec l'accident de Three Mile Island en 79, qui a quand même pas mal inquiété. Donc, Frankie Goes to Hollywood sort un titre qui s'appelle Two Tribes, avec un clip où on voit les dirigeants Est-Ouest qui s'affrontent. Mais en fait, cette chanson-là, elle est pas le texte n'est pas forcément très très explicite. Il l'a construit avec des petits morceaux de phrases qu'il avait dans son carnet.
Des collages.
Il aimait bien Burrow et le cut-up. Donc, il a fait cette chanson-là en montant des petits collages de petits textes qui lui plaisaient bien, monté sur un morceau que le bassiste aimait bien travailler pour s'échauffer les doigts. Qui était un morceau russe. Et là-dessus, ils ont collé une rythmique fun qui a donné Two Tribes.
Et ça a marché.
Et ça a marché du feu de Dieu, ouais.
Parce que moi, 1 500 000 exemplaires vendus.
Ah oui, c'est énorme.
Pour une protest song, c'est pas mal. C'est énorme. Pourquoi la révolution n'a pas suivi directement. Et 250 000 t-shirts aussi vendus.
Ouais. 9 semaines en haut des charts.
Ouais.
Un gros carton, quoi.
Un gros carton, mais la révolution n'est pas arrivée.
Ben non.
Incroyable. Et Frankie Goes to
Hollywood. Heureusement, il n'y a rien qui a pété.
Oui, et Frankie Goes to Hollywood a eu du mal à reproduire un succès comme celui-là.
Ah, bah oui, après, c'est difficile, ouais. Bah, ceci dit, je pense qu'ils sont à l'abri avec les royalties, tout ça.
On écoute Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood.
Ha! living in a land where sex and horror are the new gods. Yeah. When towns are going wild, a brain is all you can score.
Retour en direct de la branche disque avec l'équipe de Dépêche sous les yeux et Vincent qu'on n'a pas entendu depuis tout à l'heure.
Non, c'est un scandale.
Voilà. Mais par contre, on va plus entendre que
je
toi.
Je proteste.
Maintenant. Jusqu'à la fin de l'émission,
non,
c'est Vincent.
Aussi, hein.
Ah, Mélanie aussi.
Oui.
Ah oui, bon.
Oui, oui.
On va essayer de laisser de la place à Mélanie à un moment.
Un petit peu, un petit peu.
Alors, on va parler de la fin de la protest song. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que Dorian Linsky parle de la protest song à la fin de son bouquin. On est toujours en 1984.
Oui. Et de la protest song un peu par hasard. Ouais. En fait, sur les cendres des Specials. Le clavier des Specials, Jerry Dammers, crée un groupe qui s'appelle Special AK, en fait, qui était le nom original des Specials au moment où le groupe des Specials a commencé à percer. Il récupère quelques bouts des Specials et quelques artistes pour essayer de faire vivre cette flamme, mais bon, c'est vraiment un accouchement très difficile. L'album sortira vraiment dans la douleur. Ils rappelleront Elvis Costello pour finir l'enregistrement. D'ailleurs, ce sera le seul album qu'ils sortiront qui s'appellera In the Studio. Et dans cet album, je ne sais pas si c'est une pépite, en tout cas, un morceau va surnager qui s'appelle Nelson Mandela, qui sera peut-être appelé par ailleurs Free Nelson Mandela et qui sera utilisé finalement. Pas comme une protestante, mais comme un hymne finalement à la lutte du leader de l'ANC emprisonné en 1962 et qui sera libéré qu'en 1990. Donc cette chanson sort alors que Nelson Mandela est toujours emprisonné.
Il n'est pas très connu à l'époque.
Alors la cause de Nelson Mandela n'est pas très connue. On va faire un petit flashback pour parler un peu de l'apartheid. En fait, en 48, arrive au pouvoir en Afrique du Sud l'Afrikaner National Party, qui met en place les lois ségrégationnistes. Bon, forcément, les Noirs, hein, ils manifestent comme ils peuvent. En 62, il y a des énormes émeutes qui essayent de faire montrer au monde entier le scandale qu'est ce régime-là. C'est à l'occasion de ces émeutes que Mandela se fait arrêter. Et on embarque dans une période un peu douloureuse qu'on appellera les « Silent Sixties », pendant lesquels l'Occident continue à faire du business avec l'Afrique du Sud parce que c'est lucratif. Et puis, on ne parle pas du tout de ce régime dégueulasse. En 77, un autre événement va marquer un peu la sinistre histoire de ce régime. C'est la mort de Stephen Biko qui, après une arrestation, meurt pendant son interrogatoire. Stephen Biko était le leader du Black Consciousness Movement. Et donc forcément, là, il y a 10 000 personnes qui assistent à ces obsèques en Afrique du Sud. Et c'est vraiment une démonstration de force du peuple noir pour lutter et pour risquer sa peau, finalement, contre le pouvoir blanc.
Il y a une belle chanson de Peter Gabriel Biko, d'ailleurs.
Bien sûr. Une chanson qui sera sortie en 80 par Gabriel, effectivement, au sujet de la mort de Stephen Biko. Bon. Qu'est-ce qui va se passer juste avant cette chanson? Dans les années 80, on réussit quand même à passer à l'ONU un boycott culturel de l'Afrique du Sud. Donc, à partir de 80, il est interdit finalement, il est autorisé de faire du commerce avec l'Afrique du Sud, mais pas de faire des échanges culturels. Donc, on est quand même dans une période assez bizarre. Ça correspond à effectivement le pouvoir de Reagan aux États-Unis et de Thatcher en Angleterre qui se targue sous le dialogue constructif de continuer à faire du business mais en essayant de conserver un certain nombre d'apparences en disant que vraiment c'est pas bien.
Donc, et c'est à cette époque, je pense, que certains artistes s'étaient déjà constitués en collectif avec Rock Against Racism.
Alors, il y a eu plusieurs démonstrations d'artistes. Il y a Ernest Pignot-Ernest qui, je dirais, à la fin des années 70, ont mis en place des mouvements d'artistes contre l'apartheid ou d'autres penseurs, Roveda en France notamment, qui ont essayé de soulever les consciences et d'essayer de déstabiliser le pouvoir. Mais finalement, l'Occident y trouvait son compte hein, parce qu'il continuait à commercer avec l'Afrique du Sud. Et ce n'est qu'à la fin des années 80 que finalement la mayonnaise va prendre et la chanson Free Mandela est un peu ce catalyseur qui va faire que
les consciences vont finalement s'ouvrir. L'ANC en Afrique du Sud avait notamment, c'est ce que nous dit le livre, une anecdote assez croustillante. Dans les matchs de rugby ou dans les matchs de foot, il prenait le pouvoir sur la sono du stade et il branchait la chanson de Special Aka, Free Nelson Mandela. Donc c'est vraiment une chanson, sans être une protest song au départ, qui a eu un effet sur l'évolution finalement de la situation politique en Afrique du Sud.
Mandela dit lui-même que ça a aidé à sa libération.
Ça a aidé à sa libération. Alors, Jerry Dammers, qui après ce disque a splitté le groupe, s'est vraiment orienté sur l'activisme politique, a essayé de faire bouger les choses. Et en fait, le premier artiste qui, lui, s'est mis en travers du boycott culturel envers l'Afrique du Sud, c'est Paul Simon, qui est allé en Afrique du Sud enregistrer son célèbre disque Graceland. Mais pour la bonne cause, Paul Simon dit « Oui, mais moi, je vais faire travailler des groupes sud-africains. » Et donc, c'est là où on voit finalement que le boycott, s'il donne bonne conscience à l'Occident, finalement, dessert aussi les artistes sud-africains qui, eux, voulaient sortir de leurs frontières, exprimer finalement leur qualité d'artiste et avaient beaucoup moins de pouvoir de le faire puisque finalement, c'était interdit pour les artistes occidentaux de collaborer avec eux.
Et c'est un débat qu'on peut toujours avoir aujourd'hui quand on boycotte l'Iran, par exemple. C'est la même
exactement,
chose.
Exactement, c'est finalement à qui profite le boycott et qui en sont les victimes collatérales. Et c'est vrai que Paul Simon a travaillé avec des groupes comme Ladysmith Black Mambazo, qui sont des groupes assez connus de musique sud-africaine, et qui ont réussi, grâce à Paul Simon, qui a bravé le boycott, à sortir de Londres. Donc, voilà. Donc, d'autres artistes ont lutté contre l'apartheid. On a parlé effectivement de Peter Gabriel. J. Scott Heron aussi, en 1975, a sorti une chanson qui s'appelle Johannesburg. Et je ne voudrais pas oublier le guitariste du E Street Band, donc un petit rappel avec Bruce Springsteen, qui, avec un collectif d'artistes, a fait une chanson qui s'appelle Ain't Gonna Play Sun City. Sun City qui était la ville de l'argent sale, la ville de l'argent de l'extraction de l'or, hein, et donc effectivement qui essayait de l'or et des diamants avec les Vanderbilt, et donc qui essayait d'attirer les artistes blancs dans cette ville dorée. Donc on va écouter.
Excellent, excellent. On va écouter Free Nelson Mandela et après on reviendra avec Mélanie sur le groupe, le protest group. U2, forcément, c'est apparu. Je vois pas qui d'autre à protester.
Il y en a d'autres.
Mais on va en discuter. Donc Free Nelson Mandela.
Mandela.
Retour à la bourse au disque où on continue notre focus sur l'année 84 parce que après Free Nelson Mandela, U2 en 84.
Tout à fait. Alors U2 avec Pride in the Name of Love. Faut pas oublier la fin du titre. Alors en fait, on va parler de la chanson, mais c'est surtout aussi un prétexte pour parler d'un aspect plus global, puisque le sous-titre de cet article, c'est l'art difficile de l'activisme de stade. Et alors on a parlé d'acmé tout à l'heure, je le répète pour que ça rentre bien. Là, on va un peu parler de dégringolade en fait de la protest song. Et,
dégringolade, c'est un mot facile.
Si, non, ouais. non, vraiment dégringolade. Donc la chanson Pride qui est donc écrite en 1984 pour parler de l'assassinat de Martin Luther King. Alors aussi le Pride, il y a une référence à la fierté américaine du moment par rapport à la puissance militaire américaine. Donc il y a un autre aspect que Martin Luther King. Et alors si je parlais tout à l'heure de The Name of Love, c'est pas anodin, c'est parce que ça renvoie un peu à la conception du militantisme chez U2. C'est-à-dire que pour U2, la protest song, c'est l'amour, hein, c'est des choses positives. Donc, en gros, ce qu'ils veulent, c'est lutter avec du positif. Faut surtout pas pointer un doigt accusateur, être trop méchant quand même. Et alors, j'ai trouvé une citation de Bono qui est quand même un peu mystico-catholique, parce qu'il faut pas oublier que c'est un groupe qui vient quand même du catholicisme. Donc Bono disait « N'essaie pas de combattre les ténèbres avec la lumière, rend seulement les lumières plus brillantes. » Je vous laisse donc méditer. On serait presque à la messe.
Sur cette phrase-là, il parlait de Reagan d'un côté et de Martin Luther King de l'autre quand même.
Écoute, on en parlera. Là, je ne sais pas, je ne vais pas développer. Mais,
excuse-moi, mais pourtant, c'est bien le même groupe qui a fait Bloody Sunday.
Oui, mais du coup, cette chanson, on va voir, a été... Parce que quand même, dans la chanson Sunday, Bloody Sunday, il y a un vers qui dit « Je ne répondrai pas à l'appel du combat », donc qui est pacifiste, etc., mais qui n'appelle pas, par exemple, à la lutte armée. Ce qui fait que, par exemple, le leader du Sinn Féin de l'époque a déchiré une affiche de U2 en disant que Bono était un chanteur de merde. Voilà, donc en fait, il y a un malentendu un peu sur cette chanson.
Oui, mais U2 ne voulait pas non plus prendre position sur quelconque, enfin, aucune des fractions armées de l'Irlande.
Voilà, en fait, ils étaient quand même assez prudents, même si, effectivement, ils ont l'image d'un groupe très engagé. On voit que c'est assez nuancé et ambigu, en fait, dans la démarche. Et en fait, pour l'auteur du livre, l'axe d'attaque de son article, c'est de dire que Pride, c'est un peu le symbole des chansons protestataires de l'époque. C'est-à-dire que c'est en même temps une chanson entraînante, universelle, que tout le monde peut comprendre, mais en fait qui en même temps est toujours menacée d'être mal comprise ou édulcorée, parce qu'en fait l'idée c'est de chanter des chansons qui auraient un message politique dans des stades immenses avec des gens qui pensent juste à sauter en l'air et crier très fort. Et du coup, ça crée plein de malentendus, dont le symbole le plus connu est Born in the USA de Springsteen. Donc ça, voilà, on retrouve Springsteen, qui effectivement a été très très mal compris avec cette chanson qui parle d'un vétéran mutilé du Vietnam et dont plein de gens se sont emparés en comme une chanson patriotique, nationaliste.
Reagan en premier d'ailleurs.
Voilà. Et alors c'est très drôle, c'est du coup l'auteur parle de l'enregistrement de Born in the USA où il dit que sur les premiers enregistrement, c'était très âpre, très violent. Et ensuite, il dit que la version finale, on a l'impression que Springsteen braille en conduisant un tank. Et du coup, voilà, il y a une espèce de couche d'ironie qui a été très très mal comprise. Et voilà, donc ça renvoie au malentendu des protest songs de l'époque. Et dans ce contexte, il y a quelqu'un qui arrive, qui est Bob Geldof.
Ah.
Très très contesté, qui explique lui que en fait, s'il n'avait pas été dépressif, il n'aurait jamais pensé à faire Live Aid, puisque c'est un jour. Alors, il appartenait à un groupe dont j'ai déjà oublié le nom, les Boomtown Rats.
Ah oui, alors.
Excusez-moi, je peux vous chanter.
C'est le deuxième poster dans la chanson.
C'est ça. Donc, on dit Billy Bragg et Boomtown Rats. Et donc, il traversait une période de vache maigre. Il était sur son canapé à Vachy devant la télé et là il voit un reportage sur la famine en Éthiopie et il se dit « Tiens, si on faisait quelque chose voilà. ».
Mais il le fait aussi.
Il le fait, c'est-à-dire que le lendemain il prend son téléphone, il appelle des dizaines de chanteurs anglais dont Bono, alors qu'il est surpris de recevoir un appel de Geldof parce qu'il explique que Geldof c'était pas vraiment un politique très très engagé. Et ils font donc cette chanson absolument magnifique. Alors que je suis retournée voir, parce que je l'avais oublié, franchement je vous conseille de retourner voir sur YouTube le clip qui vaut son pesant de cacahuètes. Donc Do They Know It's Christmas, voilà, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Ils ont fait 8 millions de livres de recettes. Et donc ça entraîne après des concerts. Alors il y a eu la version américaine avec We Are The World, là aussi grand moment de la musique universelle. et donc à la suite tous les grands concerts, Live Aid, Band Aid, mais qui immédiatement entraînent des concerts aussi de protestation de l'autre côté. Alors
mais en même temps, le Live Aid a ramené 40 millions de livres
pour
l'Éthiopie.
Oui, mais bon, ramener l'argent est une chose. Après, c'est, alors, et j'ai une citation de Billy Bragg. C'est spécial dédicace à Odile, qui a été un de ceux qui a dénoncé justement ces grands concerts en disant qu'il perpétue les systèmes qui a permis que ça arrive. Donc c'est toute l'ambiguïté de tous ces grands mouvements qui effectivement
Billy Bragg,
rapporte de l'argent, mais en même temps sans jamais remettre en cause les vraies raisons, par exemple, de la famine en Éthiopie. En gros, si on écoute les paroles de la chanson, c'est Dieu n'a pas aidé ces gens, etc. Mais jamais ne vont être mis en cause les politiques capitalistes occidentales par rapport à l'Afrique.
Mais en même temps, on a vu depuis le début qu'il y a beaucoup de protest singers qui chantent dans leur chambre pour des gens qui sont d'accord avec eux, alors que des groupes comme U2 ou les autres chantent pour des gens qui au départ ne connaissaient pas l'Éthiopie. Donc est-ce que...
Oui, mais enfin, c'est vrai que l'Éthiopie va beaucoup mieux depuis le Live Aid.
Ils ne sont pas non plus responsables du problème éthiopien, mais est-ce qu'un protest singer ne doit pas aussi essayer de réunir le maximum de personnes sur les idées qu'il défend?
Oui, mais alors après, c'est toute l'ambiguïté, et effectivement, tout. Mais on peut se poser la question sur plein de concerts de bienfaisance, parce que c'est vraiment le début des grands concerts de charité, alors avec le côté quand même un peu bonne conscience et chrétien, forcément, que ça véhicule. Je ne sais pas, on peut se demander si les Restos du Cœur aujourd'hui, les concerts au Zénith. Bon, ça peut être une question à se poser, et du coup, je trouve que cet article a l'intérêt, enfin le mérite de la poser. Il explique aussi quand même que c'est le début des chanteurs qui se croient obligés, même sans aucune opinion politique, de dénoncer à peu près tout et n'importe quoi, depuis le massacre des baleines jusqu'à... Enfin, voilà. Il parle d'un clip de Michael Jackson notamment, ou alors c'est une espèce de kaléidoscope d'images de Gandhi, d'Hitler, et puis hop, une baleine, et puis hop, un arbre qu'on coupe, et puis hop, on revient à Mussolini. Enfin bon, donc c'est quand même un petit peu sur le plan politique, un petit peu discutable. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Et voilà, j'ai trouvé cet article plutôt intéressant par rapport à ça.
Alors préparez vos briquets, parce qu'en général, quand il y a ce genre de chansons dans les stades, on allume les briquets.
Non, mais j'étais la première à danser comme une folle sur Pride, hein, le reconnais.
Donc on écoute U2, Pride in the Name of Love. We'll be right back. C'est la suite et la fin de cette émission spéciale des Poches sous les yeux en direct de la Bourse Audi sur 33 révolutions par minute. La fin de la Protest Song. On termine avec Vincent. C'est la fin, Vincent.
Last but not least.
Enfin, il paraît que c'est la fin. Après, c'est peut-être une question qu'on pourra se poser.
Alors, est-ce que c'est vraiment la fin? En tout cas, on a choisi effectivement de finir cette présentation du livre 33 révolutions par minute par une déliquescence, on va dire, de la Protest Song, une chanson de R.E.M. qui s'appelle Exhuming McCarthy, qui est sortie en 87. Bon, R.E.M., tout le monde connaît ce groupe de pop américaine qui s'est créé en 81, donc dans très très en vogue dans les campus américains, donc plutôt, on va dire, placé à gauche, surtout quand on grandit à l'ombre d'un Reagan qui va enchaîner deux mandats dévastateurs, suivi par George W. Bush père. Donc c'est quand même, effectivement, ça ancre une conscience, et cette conscience est forcément placée à gauche. Néanmoins, ce groupe, finalement, ne s'est pas engagé dans la voie de la Protest Song, alors qu'il aurait pu voguer sur ce fleuve-là, sachant que, étant très populaire au sein des campus, il aurait pu exploiter comme un U2 cette vogue-là, de dire « tiens, je vais faire des chansons dans des stades pour donner bonne conscience aux gens ». Et finalement, ce qu'il y a de bien dans R.E.M., c'est qu'ils ont refusé ce parti pris un peu commercial de U2. Mais d'un autre côté, on peut aussi être frustré parce que leur engagement politique, finalement, s'est limité à Amnesty International et Greenpeace, qu'ils accueillaient très volontairement dans leur méga concert. Mais finalement, ils ne sont jamais allés au-delà. Et les paroles de Michael Stipe, le chanteur et une des consciences, on va dire, intellectuelles du groupe, finalement, t'es pas très clair, puisque ces paroles sont quand même très symboliques, très évanescentes. On ne sait pas exactement ce qu'il dit. C'est, on va dire, ça doit être un poète. Mais bon, finalement,
quand on comprend pas ce qu'il dit,
on comprend pas tout le temps ce qu'il dit. Et même dans la chanson Exhuming McCarthy, où il reprend une scène très célèbre pour les Américains, moins pour nous, d'une des auditions télévisées conduites par McCarthy, où un de ses opposants lui demande de faire preuve d'un peu plus de décence parce qu'il était en train de massacrer un jeune à qui il reprochait dans ses jeunes années d'avoir adhéré à une ligue de juristes un peu placés à gauche. Donc à part cet ancrage-là, bon, il dénonce quoi, le libéralisme, la quête du business, mais finalement la chanson en elle-même n'est pas vraiment une protest song. Et donc de finir par ce constat que on a beau être engagé dans cette jeune année, ces années d'étudiants, finalement, quand on grandit, ben, tout ça se dilue un peu et ça se barre peut-être en couille et ça s'embourgeoise quand même largement. C'est une fin qui est quand même pas très agréable.
Il n'y a plus de jeunes donc aussi.
Alors, plus de jeunes. D'ailleurs, cette chanson sort sur le dernier album de R.E.M. produit par IRS Records. Juste après, ils vont signer pour Warner Bros. Donc, c'est le début de l'explosion de R.E.M. qui après va enchaîner des albums assez énormes et des grands concerts. L'album qui s'appelle Green, Automatic for the People, qui vont être des énormes succès de R.E.M. et qui vont faire d'eux un groupe très riche, mais finalement sans vraiment de conscience politique, ce qu'on peut regretter pour les fans de la première heure.
Et voilà comment on enterre la Protest Song à la fin de la fin de cette émission. C'est pas complètement fini, on va d'abord écouter R.E.M. Exhuming McCarthy et on revient pour un special
Une petite note de gaieté, on peut pas se quitter comme ça, okay. Tout en tristesse.
Donc on écoute R.E.M. tout de suite et puis on revient. Allez, c'est le dernier retour en direct de la Bourse 10 pour Dépoche sous les yeux avec... Vas-y, dis d'abord ce qu'on va entendre.
On va terminer sur une note de gaieté. Comme je le disais, un petit pied de nez. On va pas se prendre trop au sérieux, même si le thème de cette émission, c'était la chanson contestataire ou protest song. Là, je vous propose d'écouter Sunday Bloody Sunday, mais pas par U2, non, par... Richard Cheese, un Américain qui parodie toutes les chansons contestataires et connues. Et le nom de son groupe, c'est pas Rage Against the Machine, mais c'est Lounge Against the Machine. Ça vous dit tout. Donc là, je vous propose un petit Bloody Sunday en version cha-cha-cha. Et là, ça va vous permettre de réécouter les paroles. Toutes les musiques de Richard Cheese vous permettent de réécouter, de redécouvrir les textes, en fait. C'est fabuleux.
Alors avant d'écouter Richard Gilles, on va rappeler que les chroniqueurs de Dépêche ou Lisez chroniquaient aujourd'hui 33 révolutions par minute, un double bouquin, il y a deux tomes, de Dorian Linsky qui est paru chez Rivage Rouge. Merci à vous, les Dépêche ou Lisez, on retrouve les chroniqueurs quand, Odile ?
Tous les jours, trois fois par jour, à 8h-5, 1h-5 et 6h-5. Et puis on peut peut-être faire aussi un teaser pour notre prochain direct.
Vas-y.
Ce sera en janvier, un samedi, pour la réinauguration de la bibliothèque de Tours.
Et on commence à se préparer dès maintenant, d'ailleurs.
C'est fort. En direct d'une bibliothèque, waouh, ça va être dingue. Ça va être...
Et pour une émission littéraire, c'est audacieux.
C'est très, très audacieux. Alors, on écoute Richard Cheese.
Cheese, Ricardo Queso.
Le fromage, tu vois.
Richard Cheese. Ah, mais c'est son vrai nom, Richard Cheese.
Oh, quand tu le vois et tu l'écoutes, tu te Johnny dis bien que non.
Ok, Sunday Bloody Sunday.
Uno, dos, tres, catorce. Hola, señoritas, y señores. Me llamo Ricardo Queso. Let's mambo! I can't believe the news today. Oh, I can't close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? How long? 'Cause tonight we can be as one. Broken bottles under Nino's feet. Bodies strewn across that dead-end street. And today the millions cry. We fiesta while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Ay, chihuahua! Sunday, bloody Sunday.